Et alors, on avait abordé justement la question du diable. Question pas très emballante, mais enfin, qui est là quand même, parce que c'est sûr que c'est un problème qui est malgré tout incontournable. Nous avons vu la dernière fois, un peu en introduction de cette étude, les différents mots par lesquels il était désigné. Donc le diable, Satan, l'adversaire, etc. Nous avons vu aussi que Satan est un ange. Et il appartient plus particulièrement à la catégorie des chérubins. C'est comme ça qu'il est désigné dans le chapitre 28 du livre du prophète Ézéchiel en particulier. Même si il prend dans ce contexte-là l'aspect du roi de Tyr, il est évident que le personnage auquel le prophète s'adresse va bien au-delà de la personne du roi de Tyr historique auquel le texte est lui-même dédié. Donc, chérubin protecteur. Et là, nous sommes donc dans un des sommets de la hiérarchie angélique. Et ce chérubin, nous allons voir ce que sera sa carrière, mais le fait qu'il occupe une position élevée est aussi souligné, par exemple, dans l'épître de Judas, où il nous est dit que l'archange Michaël, qui pourtant lui aussi est un des anges les plus élevés dans la hiérarchie céleste, n'osait pas porter sur le diable de jugement injurieux, alors qu'il disputait avec lui le corps de Moïse après la mort de ce dernier, précisément à cause de la position élevée qui était celle de Satan, même dans sa révolte contre Dieu. Il avait gardé quelque chose dans ce combat avec Michaël, il avait gardé quelque chose de la position élevée qui était la sienne avant sa chute. Éphésiens chapitre 2, verset 2, le définit comme le prince de la puissance de l'air. Et là, donc, nous voyons aussi quelque chose de l'élévation et de la grandeur, donc de la puissance aussi de Satan. Dans d'autres textes, il est aussi désigné comme le prince de ce monde. On peut se demander quand il est devenu justement prince de ce monde. Dans le récit des tentations, les trois tentations de Jésus, le diable déclare à ce dernier, en lui montrant tous les royaumes de la terre, « Je te donne tous ces royaumes, car ils m'ont été donnés, et je les donne à qui je veux. » Jésus ne conteste pas le fait que ces royaumes lui ont été donnés. Bon, il refuse de recevoir de lui les royaumes de la terre. Il les recevra un jour de son Père. Mais il ne nie pas que pour l'heure, dans l'économie actuelle, Satan est bien le prince de ce monde. Prince dont la liberté et la marge de manœuvre est limitée. Et le livre de Job nous le montre. Et même dans sa révolte, Satan est soumis à Dieu. Ça, c'est une chose très intéressante et très importante de souligner, parce que un des risques qui a toujours été celui du christianisme, du judéo-christianisme, et qui n'a pas toujours évité, notamment au Moyen-Âge, c'est le dualisme. Le dualisme, qui est celui que nous trouvons, par exemple, dans l'hérésie manichéenne. Les manichéens étaient une religion perse qui affirmait qu'il y avait deux dieux dans le monde, le dieu de la lumière et du bien, et le dieu des ténèbres et du mal, qui étaient en opposition. Et que, somme toute, dans l'économie actuelle, on était dans ce combat entre le dieu du bien et le dieu du mal, et qu'a priori, on ne pouvait pas savoir lequel allait l'emporter sur l'autre. Que précisément, le but de l'homme, c'était d'aider le Dieu du bien à prendre l'avantage sur le Dieu du mal, pour que finalement, ce soit lui qui triomphe à la fin. Bon, c'est une hérésie qui s'est retrouvée dans le christianisme primitif. Et on connaît des cas où un certain nombre de chrétiens ont prétendu que Satan était en quelque sorte du mal, le dieu des ténèbres, et que, somme toute, il était quasiment aussi fort que Dieu. Bon. Cette hérésie des premiers siècles, nous la retrouvons aussi au XIIe siècle, en Europe, plus particulièrement dans le sud de la France, avec l'hérésie cathare. Autant qu'on le sache, parce qu'on n'a pas de textes cathares eux-mêmes, mais enfin, les inquisiteurs nous disent qu'une des hérésies que professaient les cathares, c'était justement ce dualisme. Le fait que Dieu était le dieu du bien, de la lumière, et tandis qu'ils avaient affaire aussi avec Satan, qui était le dieu du mal. Donc, le catharisme était une résurgence du manichéisme. Ça, c'était quelque chose qui semble à peu près prouvé, et tous les spécialistes de la question sont à peu près d'accord sur ce point. Donc, il y a eu ce danger. Et ce danger, même l'Église catholique du Moyen-Âge n'a pas toujours été très claire à ce sujet-là. Elle a prêté le flanc à des dérives de ce type-là. Et à la fin du Moyen-Âge en particulier, la figure de Satan dans la piété populaire en particulier avait pris une telle ampleur que pratiquement il était l'égal de Dieu dans pour la piété de beaucoup de gens. On voyait le diable partout, il était quasiment, en tout cas redouté. Bon, on a vu par exemple qu'il prenait l'image du juif, le juif était une incarnation du diable. Mais le bas Moyen-Âge était aussi l'époque où fleurissaient sorciers et sorcières. Et il y avait des cultes sataniques très importants qui existaient en Europe à cette époque-là. Et les chasses aux sorcières, pour cruelles et démesurées qu'elles aient été, n'étaient pas dépourvues de fondement. Mais la théologie officielle catholique aussi n'était pas sans donner au diable une importance beaucoup plus grande que celle qu'il avait réellement. Alors, justement, quand nous parlons de la puissance de Satan, quand nous parlons de Satan prince de ce monde, il faut nuancer. Prince de ce monde, oui, mais pas souverain absolu du monde. Dieu n'a pas abandonné le monde à l'ennemi. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure au sujet du livre de Job, Satan a une grande puissance, mais il ne fait à Job que ce que Dieu lui permet de faire. Dieu lui dit, je te donne tout ce qui est à Job, ses troupeaux, ses biens, ses maisons, ses fils et ses filles même, mais lui, tu ne le touches pas. Tu ne touches pas un seul cheveu de sa tête. Puis quand Satan revient à la charge une deuxième fois, et il dit, le Seigneur dit, bon, je te livre ça, Job, tu fais ce que tu veux de lui, sauf le tuer. Tu n'attends pas à sa vie. Donc, Satan ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Sa puissance, pour grande qu'elle soit, est limitée. Et ça, c'est quand même extrêmement rassurant de le rappeler. Satan n'est pas un souverain absolu, mais c'est vrai, 2 Corinthiens 4, verset 4, c'est le Dieu de ce siècle, nous dira l'apôtre Paul. Satan, et nous aurons l'occasion de le voir dans une autre étude, est assisté par une hiérarchie d'anges mauvais, d'anges déchus. Éphésiens 6, versets 11 à 12, et Luc 11, verset 14, 18, il domine sur les démons. Par conséquent, il n'est pas seul dans son œuvre mauvaise, dans son œuvre de destruction. Mais nous voyons qu'il a entraîné dans sa révolte une partie des créatures angéliques. Alors, est-ce que les démons sont assimilables avec les anges mauvais, ou est-ce qu'il faut distinguer anges mauvais et démons? Ça, nous aurons l'occasion de voir cette question quand nous parlerons justement des démons. Mais pour l'heure, il nous suffit de dire que Satan est à la tête d'une hiérarchie démoniaque qui l'assiste dans sa tâche. Satan peut néanmoins, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant de noter, résister aux anges de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure l'archange Michaël qui contestait avec Satan le corps de Moïse. Mais le livre de Daniel nous montre que précisément, dans ce que ici l'apôtre Paul appelle l'air et la puissance de l'air, il y a un combat entre les anges de Dieu et les anges de Satan. Et l'ange Gabriel, qui vient annoncer à Daniel les événements de la fin, lui dit que il n'a pas pu venir dans les temps qu'il aurait aimé, mais il a subi une opposition démoniaque pendant 3 semaines qui l'a retardé. C'est très intéressant, nous voyons ici que Satan et ses anges ont la possibilité de contrarier jusqu'à un certain point le plan de Dieu, et en tout cas de retarder le plan de Dieu. Ça, c'est tout à fait intéressant. Le monde entier sous sa puissance, 1 Jean 5, verset 19. Mais, comme on dit, il ne faut pas oublier que sa puissance est néanmoins limitée. Satan est puissant, mais une de ses armes favorites est aussi la ruse. Satan est rusé, 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 10. Et c'est par ruse qu'il s'introduit dans le jardin d'Éden et qu'il fait tomber, donc, nos premiers parents dans le péché et la révolte contre Dieu. Sa ruse l'amène, nous dit Paul en 2 Corinthiens 11, verset 14, à aller jusqu'à se déguiser en ange de lumière. Bien entendu, si Satan venait, comme on l'imagine, avec ses cornes et sa queue fourchue, etc., il serait rapidement démasqué. Mais Satan emploie rarement, évidemment, cette manière de faire. Mais il vient sous des dehors tout à fait anodins, bénins. Il peut prendre même auprès de Jésus la voix de l'apôtre Pierre, n'est-ce pas ? Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas quand Jésus parle de la croix. Et Jésus reconnaît la voix de l'ennemi au travers de la voix de Pierre. Arrière de moi, Satan. Tu es Satan, Pierre, quand tu parles comme ça. C'est pas toi qui parles. C'est toi qui parles, si, physiquement, c'est tes lèvres qui remuent. Mais c'est Satan qui parle par ta bouche. Tu n'en es pas conscient, mais c'est comme ça. Bon. C'est Satan qui parle par la bouche de la femme de Job. Quand la femme de Job lui dit « Maudit Dieu et meurt !» Et puis, Satan a mille et mille moyens, justement, de séduire. C'est le séducteur. Mais Satan est l'incarnation du mal. Il séduit les hommes pour les entraîner dans le péché. Et en cela, il est pécheur. Il est l'instigateur du péché parce que, 1 Jean 3, verset 8, il pèche dès le commencement. Tout péché, toute forme de péché, a son origine dans celui qui est à l'origine du péché lui-même, qui est le premier des pécheurs. Le premier des révoltés, Satan. Et le péché qui a été le sien a été essentiellement le péché d'orgueil. Et c'est pourquoi l'orgueil est quelque chose de redoutable pour la Bible, parce que c'est par orgueil que Satan est tombé. Et d'une certaine manière, l'origine du péché est toujours plus ou moins recherchée dans une forme d'orgueil, la révolte d'Adam et d'Ève était basé sur l'orgueil, en grande partie. Vous serez comme des dieux. Vouloir beaucoup plus que ce que l'on est, ce que l'on est appelé à être. Adam et Ève n'étaient pas appelés à être comme des dieux, mais ils ont désiré cela, par orgueil. Or, précisément, ce désir d'être comme Dieu était le péché de Satan aussi. Et Adam et Ève, et finalement tout homme au travers d'eux, sont tombés dans le péché qui avait été celui de Satan lui-même au commencement. La Bible nous dit que tout ce qui sort des mains de Dieu est parfait. Dieu n'est pas tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Et par conséquent, toute grâce excellente et tout don parfait descendent de Dieu, le Père des Lumières. Les œuvres de Dieu sont conformes à sa nature. Dieu est bon, Dieu est parfait. Et tout ce que Dieu fait est bon, agréable et parfait. Et le texte d'Ézéchiel 28 que nous évoquions tout à l'heure, qui évoque précisément la carrière de Satan, nous dit d'une manière très claire, tu n'en as pas la Bible ce soir, c'est dommage, nous dit d'une manière très claire que Satan au commencement a été créé parfait. Satan n'a pas toujours été en révolte contre Dieu. Satan n'a pas toujours été pécheur. Satan n'a pas toujours été l'agent du mal. Mais il a été un ange de Dieu fidèle au commencement. Tellement fidèle que Dieu a remis à ses soins ce qu'il avait de plus précieux, ses trésors. Quelle était la nature de ces trésors? La Bible ne nous le dit pas. Elle nous dit simplement que il marchait au milieu des pierres de feu, c'est-à-dire des pierres précieuses. Et en quelque sorte, Dieu avait remis à sa garde, c'est le rôle des chérubins d'être des gardiens. Les chérubins vont garder l'accès de l'arbre de vie. Et dans l'Éden céleste, dont l'Éden terrestre n'était que la réplique. Dans l'Éden céleste, le chérubin protecteur, donc le gardien, avait pour fonction, pour mission, de garder les trésors de Dieu représentés par des pierres précieuses. Mais ça, ce sont des images pour nous permettre de comprendre. Et le diable, Lucifer, est devenu non seulement orgueilleux, mais il est devenu aussi meurtrier et père du mensonge. Et ça, c'est une chose qu'il nous faut savoir. Satan est véritablement le meurtrier. Son but, c'est la mort. Et il est meurtrier dès le commencement parce que, par sa ruse, il va entraîner nos parents à la mort. C'est par lui que la mort entre dans le monde. Et son but, c'est d'amener les hommes à la mort. D'ailleurs, la possession démoniaque a pour but la mort, l'autodestruction, le suicide. Nombre de maladies mentales se terminent par le suicide. C'est la marque de l'adversaire. Et nous avons des cas où, par exemple, l'enfant possédé, dont il est question dans l'Évangile, le diable le jetait dans le feu ou dans l'eau pour qu'il se détruise. Le possédé de Gadara s'auto-mutilait lui-même, n'est-ce pas? Les pourceaux possédés par justement la légion de démons qui sort de lui se précipitent dans la mer et se noient. Le but de l'adversaire, c'est de tuer. Il est meurtrier. Il est derrière les guerres, derrière les tueries gigantesques qui ont marqué le siècle, notre siècle finissant. Il est celui qui pousse Cain à tuer Abel, etc. Il est meurtrier dès le commencement. Et il est aussi, nous dit la Bible, le père du mensonge. D'ailleurs, la séduction qui est la sienne est basée sur le mensonge. Pour cela, il nous est dit aussi qu'il aveugle l'intelligence des hommes, pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile, 2 Corinthiens 4, verset 4. Mais il y a aussi quelque chose de tout à fait intéressant que nous dit Jacques, chapitre 4, verset 7, c'est que, somme toute, Satan est un lâche. Quand on lui résiste en face, il fuit. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Le diable est quelqu'un qui cherche à impressionner, à faire peur. C'est aussi ce que le Moyen-Âge avait réalisé, ça, s'il y avait quelque chose de vrai. S'il est vrai que le diable vient en vêtements se déguise en ange de lumière, il est aussi quelqu'un qui peut prendre des choses épouvantables. Et ça, quand il y a des manifestations démoniaques, c'est souvent justement quelque chose qui fait peur. Et sans aller jusque-là, le diable est celui qui met dans nos cœurs des craintes, des angoisses, qui fait peur. Bon. Mais c'est du bluff. Satan est un bluffeur. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut que nous sachions. Et quand on dénonce son mensonge, quand on dénonce ses ruses, et quand il est démasqué, il faut le démasquer, Satan doit être démasqué. Et alors, quand nous lui résistons en face, il fuit. Non pas parce que nous sommes plus forts que nous, que lui, non pas parce qu'il a peur de nous. Oh là là, c'est sûr que les petits hommes que nous sommes ne lui font pas peur. Mais parce que, comme le dit l'apôtre Jean, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce dont il a peur, c'est de l'Esprit Saint. Et, comme le disait le prophète, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, Jésus dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions, etc., et rien ne pourra vous nuire. Et nous avons l'exemple biblique des sept fils de Séva, qui chassaient les démons au nom de Jésus. Et les démons disent, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Jésus. Et vous ne me faites pas peur. Jésus, j'en ai peur. Paul aussi. Mais vous, et les possédés se jettent sur ces sept fils de Séva, et ils les frappent, ils les meurtrissent, ils s'en vont nus et blessés, nous est-il dit. Donc, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien, alors il faut que nous ayons le courage d'affronter l'adversaire. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Revenons maintenant, si vous voulez, à ce chapitre, ce fameux chapitre 28 du livre d'Ézéchiel, qui concerne justement le roi de Tyr. Donc ce texte nous dit que Satan était parfait en beauté, rempli de sagesse. Et ça aussi, c'est une chose qu'il faut que nous sachions. Rempli de sagesse, Satan est intelligent. Et souvent, beaucoup plus intelligent que nous, c'est évident. C'est pourquoi il est extrêmement dangereux de discuter avec l'adversaire. Parfois, certains s'amusent à parler avec des esprits démoniaques. Prenons l'exemple de Jésus qui demande aux démons « Quel est ton nom ?»« Légion, etc. » Mais vous remarquerez une chose, c'est que Jésus n'engage pas la conversation avec les démons. Et quand les démons veulent parler, il les fait taire. Quand les démons disent « Nous savons qui tu es le Fils de Dieu », Jésus les fait taire. Lorsque l'esprit de Python qui est dans la jeune esclave qui se trouve à Philippe suit Paul et ses amis en disant « Ce sont des serviteurs du Dieu Très-Haut », il vous annonce finalement… Paul, excédé, l'a fait taire. Il fait taire le démon. Pourquoi ? Parce que la dialectique de l'ennemi est très subtile. Satan est très intelligent. Il a une expérience millénaire. Et à partir du moment où nous acceptons de discuter avec l'adversaire, eh bien, nous sommes perdus. Il y a des moments où l'adversaire vient comme un fleuve dans nos vies, avec des pensées, avec des raisonnements. Et quand nous entrons dans le raisonnement de l'adversaire, c'est un engrenage. Raisonnement, c'est une chaîne. Il y a un moment où il y a un vice dans le raisonnement. Et si nous passons au-dessus de ce vice de raisonnement, eh bien nous sommes entraînés dans les conclusions ensuite. Toujours dans une conclusion, ça faut toujours voir à l'endroit où le raisonnement pêche. Parce que si on ne voit pas ça, et si on se laisse entraîner plus loin, alors automatiquement on arrive aux conclusions. Et donc automatiquement on arrive à des conclusions qui sont fausses, qui sont erronées. Mais Satan est suffisamment intelligent pour nous cacher les endroits où son raisonnement pêche. Et c'est là que nous avons des problèmes. Surtout que Satan nous cache soigneusement un certain nombre de données. Et par exemple, la philosophie est souvent inspirée par l'adversaire. On a ça aussi lorsqu'à partir du moment où le christianisme a accepté de discuter avec les philosophes grecs, les philosophes païens, les philosophes qui étaient animés par un esprit qui était d'en bas. Et on a essayé de faire une synthèse entre la philosophie et puis le christianisme. Ça a été l'œuvre des pères de l'Église, puis ça a été l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, puis ça a été l'œuvre de Teilhard de Chardin, plus près de nous, et puis ça continue. Et puis on a un christianisme qui est défiguré, qui a perdu sa force. Et puis aujourd'hui, on pourrait prendre la haute critique, la critique biblique, le libéralisme théologique, n'est-ce pas ? Toutes les théologies qui sont marquées par des raisonnements qui sont erronés, qui sont faux. Et parfois, l'ennemi vient justement avec des raisonnements de ce type-là. Et c'est, vous savez, c'était le drame de Billy Graham quand il était jeune prédicateur à l'école biblique, jeune étudiant à l'école biblique, et qu'il était confronté avec ses théories libérales, etc. Et puis qu'il ne savait plus où il en était. Et il a compris que c'était une attaque de front de l'adversaire. Et alors c'est là qu'il s'est mis à genoux, il a dit « Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas dans ta parole, il y a des choses qui me heurtent, mais je prends la décision aujourd'hui que de prendre ta parole telle qu'elle est, c'est-à-dire de la Bible telle qu'elle est, c'est-à-dire ta parole. Je dis ta parole est la vérité. Et je prêcherai ta parole. Et si il y a des questions qui se posent, eh bien, dans la foi, je dirais bien tant pis, je ne comprends pas, mais je crois. » C'était le début, le tournant de son ministère. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu le grand homme de Dieu, le grand évangéliste, et que les foules ont commencé à se convertir. Quand il a pris cette position de foi, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et tout à l'heure, je voyais, j'étais allé acheter un livre pour mon prochain kérène, et à Continent, il y avait un livre là qui s'appelait Jésus contre Jésus par les deux, vous savez, les deux tristes cires là qui ont fait les trucs d'Arte, là, prieur et puis je ne sais plus comment s'appelle l'autre, là. Bon, bah, on voit bien que ce n'est pas signé par ces deux-là, c'est signé par l'adversaire, c'est signé par le diable. Le prince de ce monde a obscurci leur intelligence. Et ça, il faut faire attention, il est intelligent, mais il cherche à obscurcir notre intelligence. Alors, en face de cela, bien, Jésus n'a pas discuté. Quand le diable est venu vers Jésus avec des discussions théologiques subtiles, puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pierres de devenir du pain, il citait même des textes bibliques, etc. Quelqu'un a dit, très, très justement, Satan est le meilleur théologien qui existe. Il n'y a pas de plus grand théologien que Satan. C'est vrai. Mille fois raison. Jésus n'a pas discuté. Théologie. Oui, mais enfin, quand même, là, le document yaviste dit que, tandis que le document... Non, ça, c'est l'adversaire. Il est écrit. Et ça, ça lui ferme la bouche. Terminé. C'est ce qu'a fait Billy Graham. Quand il était au proie avec ses doutes, il est écrit. Alors, ils l'ont vaincu, dira le livre de l'Apocalypse, grâce à la parole de leur témoignage. Et il est très important, justement, de se tenir sur le roc de la parole de Dieu face à l'adversaire. C'est une des armes essentielles, n'est-ce pas ? Affirmer ce que la Bible affirme. Affirmer ce que Dieu affirme. Et quand nous affirmons ce que Dieu affirme, Dieu est de notre côté. Et le diable, automatiquement, est défait. Ça, c'est une chose que nombre de serviteurs de Dieu, d'hommes de Dieu, serviteurs de Dieu ou non d'ailleurs, ont expérimenté dans leur vie. Quand nous affirmons ce que Dieu affirme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, dira l'apôtre Paul. Vous savez, dans la panoplie des armes du chrétien, il y a toute une panoplie défensive, le bouclier de la foi, l'armure, le casque du salut, etc. Et puis finalement, il y a une seule arme offensive. L'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Alors il nous faut apprendre, face à Satan, à manier l'épée de l'esprit, à manier la parole de Dieu. Et manier la parole de Dieu, c'est pas la découper avec le yaviste, l'éloïste, et puis ce que vous voudrez, le premier Ésaïe, le deuxième Ésaïe, le troisième Ésaïe, et puis le pseudo-Matthieu et le pré-Matthieu, et la source qu'elle, et tout ce que vous voudrez. Ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. Je vous disais dernièrement un homme de Dieu fidèle, c'est pas, somme toute, quand les Juifs essayaient de voir les contradictions apparentes du texte biblique et de les harmoniser au travers du Midrash, eh bien, ils disaient finalement, cette méthode, pourquoi est-ce qu'elle serait moins valable que celle de nos modernes exégètes qui attribuent ça à des sources différentes et qui découpent la parole de Dieu en rondelles de saucisson. Et lui, pourtant, homme rompu à ces choses-là, disait, ben, moi je préfère le Midrash. Préfère justement cette harmonisation, n'est-ce pas, qui part d'un a priori de foi, à savoir ta parole et la vérité, il est écrit. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver des réponses. Il n'y a pas toujours des réponses, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des mystères profonds, mais avoir la foi dans ta parole, dans la parole de Dieu, eh bien c'est une grande sauvegarde contre la puissance de l'ennemi. Donc plein de sagesse, parfait en beauté. Parfait en beauté, ça montre que là aussi, il y avait une harmonie qui a été perdue. Et bon, là, on peut penser que le chérubin se trouvait dans cette Jérusalem céleste qui un jour descendra sur la terre. On voit ça aussi dans le livre de l'Apocalypse. Et ces pierres précieuses, on les voit aussi devant le trône de Dieu. Genre dans l'Apocalypse, voit comme une pierre de saphir, les pierres précieuses qui sont autour du trône de Dieu. Bon, c'est difficile, bien sûr, de prendre ça à la lettre, mais enfin, ça montre qu'il y avait des choses infiniment précieuses dont Lucifer était le gardien. Maintenant, ce qui s'est produit, c'est un mystère qui nous dépasse aussi, bien sûr. Comment Satan a-t-il pu être tenté? Bon, nous sommes tentés. Connaissons bien le mécanisme de la tentation. Nous sommes tentés, disons, parce qu'au début, il y a eu un tentateur. Et même, comme nous dit l'apôtre Jacques, chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. La propre convoitise dont parle l'apôtre, elle est le résultat de la nature déchue, qui est la nôtre. Et d'où vient la nature déchue? De la tentation initiale de Satan. Donc il y a eu un tentateur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a permis qu'il y ait un tentateur dans le jardin d'Éden, pour qu'il puisse y avoir tentation. Sans tentation, sans tentateur plus exactement, on peut penser que l'homme n'aurait pas été tenté. Il n'avait aucune raison de se révolter. Et il n'y pensait pas. Ève n'y pensait pas. C'est lorsque le tentateur a mis dans son esprit l'idée que, de fait, une révolte était possible. Elle n'avait jamais envisagé ça. Et Adam non plus. Donc, pour la chute de l'homme, il fallait un tentateur. Alors on dira, ben pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il y ait un tentateur? Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il y ait une tentation pour l'homme? Ben parce que, autrement, l'homme n'aurait pas été un être libre. Et donc, il fallait que les deux termes de l'alternative puissent s'ouvrir devant lui. Mais les anges, qui a tenté les anges? Qui a tenté Satan? Eh bien, personne, ça c'est clair, la Bible nous le dit, personne. Et pourtant, il y a eu révolte. Il y a eu révolte chez les anges. En tout cas, au moins chez Satan. On peut penser que peut-être Satan ensuite a tenté les autres anges. Mais en tout cas, qui a tenté Satan? Personne. Alors là, évidemment, on est dans le domaine des hypothèses. La Bible ne nous répond pas à cette question. Comment Satan a-t-il été tenté? Peut-être qu'une approche, mais c'est une approche évidemment, on ne peut pas être dogmatique sur ce point, une approche de réponse à cette question serait de dire à peu près ceci. Les hommes, les êtres humains, sont des esprits dans un corps matériel. Et par conséquent, pour être tentés, ils ont besoin d'un tentateur qui soit extérieur à eux. Et d'ailleurs, c'est précisément parce que, on pourrait dire, à cause de cela, l'homme a une circonstance atténuante devant Dieu. Bon, je mets circonstance atténuante entre guillemets, bien sûr. Parce que de toute façon, l'homme n'aurait pas dû tomber, n'aurait pas dû, et il reste coupable devant Dieu. Mais enfin, par rapport à Satan, il a une circonstance atténuante, parce que justement, comme le dit d'ailleurs très, très spontanément, le diable m'a tenté, le serpent m'a tenté, m'a séduit. Ben oui, il y a du vrai. Elle essaie de s'excuser, c'est pas une excuse, mais quand même, il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Elle n'est pas entièrement responsable. À cause de ça, Dieu donne à l'homme une nouvelle chance. En Jésus, d'échapper aux conséquences de sa révolte. Les anges n'ont pas de deuxième chance. Les anges qui n'ont pas gardé leur demeure, dira l'apôtre Pierre et l'apôtre Judas, sont condamnés pour l'éternité aux ténèbres éternelles de l'abîme. L'enfer, dont nous parlerons plus tard dans notre étude sur l'eschatologie, n'est pas créé pour l'homme. Il est créé pour le diable et pour ses anges, les temps de feu et de soufre, si vous lisez l'Apocalypse. Donc, les anges n'ont pas de deuxième chance. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse de l'homme, eux, ils sont entièrement responsables de leur révolte. Ils n'ont aucune circonstance atténuante, aucune excuse. Alors, on retombe sur notre question. Comment Satan a-t-il pu être tenté? Comment Lucifer a-t-il pu être tenté? Mais cet exemple du châtiment des anges montre que la tentation des anges était d'une autre nature que celle des êtres humains. Alors, encore une fois, la Bible ne nous en dit pas plus. Donc, on ne peut que spéculer, avec tous les risques de se tromper, bien sûr. Mais quand même, on peut se demander si les anges, par rapport aux hommes, sont des purs esprits. Ils ne sont pas des esprits incarnés. Ils ont une intelligence, une connaissance qui dépasse de loin l'intelligence et la connaissance des êtres humains que nous sommes. Et peut-être qu'il y a un élément de réponse dans ce que nous dit le prophète Ézéchiel, parlant de Lucifer, tu t'es corrompu par la contemplation de ta propre beauté. Est-ce que ce verset ne laisse pas supposer ceci? C'est que les purs esprits que sont les anges peuvent être séduits par l'idée du mal lui-même, peuvent être séduits par des idées pures. Une idée pure ne peut pas séduire un être humain. Parce que justement, il est incarné, il faut qu'il y ait un intérêt immédiat en quelque sorte, il faut qu'il ait l'impression. Satan savait très bien ce que serait la révolte, quelles en seraient les conséquences. Et pourtant, il a été séduit par le mal, il a été séduit par la révolte. Par sa propre beauté, par l'orgueil, et c'est là que nous retrouvons l'orgueil dont nous parlions tout à l'heure. Séduit par sa propre beauté, la contemplation de cette propre beauté. Et alors, il a eu cette idée folle, insensée, nous dit le texte. Je monterai sur la montagne de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Et là, nous retrouvons la tentation du Jardin d'Éden. Vous serez comme Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Et alors, c'est la révolte. La révolte contre Dieu. Bien sûr, cette révolte était insensée, et c'est là qu'on peut se demander, mais comment Satan a-t-il pu avoir une conduite aussi suicidaire? Mystère. Mystère, nous sommes ici dans le mystère. Il fallait vraiment que cet orgueil soit tellement puissant que il l'amène à cette autodestruction, en quelque sorte, véritable, pas suicidaire. Mais bon, il y a eu tentation des anges. Avant la création de l'homme, il y a un drame dans la création angélique. Face à cette révolte du plus grand d'entre eux, les anges doivent opter, doivent choisir. Ou se révolter contre Dieu et suivre Lucifer dans sa révolte, ou rester fidèle à Dieu. Et c'est ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais anges. Le livre de la Genèse évoque ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui sont allés vers des femmes. Nous retrouvons ça dans les épîtres de Pierre, dans les épîtres de Judas. Ce rappel de la révolte des anges. Et voyez-vous, il fallait aussi, on pourrait dire, que les anges soient tentés. De la même manière qu'il a fallu que les hommes soient tentés, il a fallu que les anges soient tentés. Parce que les anges, comme les hommes, étant des esprits à l'image de Dieu, sont des êtres libres. Et il n'y a pas de liberté sans tentation. Il n'y a pas de liberté sans choix. Et alors, bien avant la création de l'homme et la chute de l'homme, il y avait déjà eu une chute des anges. Et l'homme paraît déjà dans un univers qui est un univers, on dirait, éclaté. D'ailleurs, les rabbins l'ont vu. Ils disent, la première lettre de la Torah commence par la lettre B, Bet. Et non pas par la lettre Aleph, qui a comme valeur numérique 1. Bet a comme valeur numérique 2. Pourquoi ? C'est une question qui n'aurait jamais effleuré les non-juifs, bien sûr. Mais pour les rabbins, c'est une question. Pourquoi la Torah, la Bible, commence-t-elle par la lettre Bet, qui a valeur numérique 2 ? Parce que quand le ciel et la terre sont créés, la création angélique est déjà divisée. Parce que déjà l'univers est éclaté en deux. Parce que déjà l'unité initiale est perdue. Et le but de Dieu, la création, qui tend vers un but, vers le taf, qui est la dernière lettre de l'alphabet, et que vous trouvez à la fin du premier mot de la Bible, Bereshit. Eh bien, le but de Dieu, c'est, comme on dit en hébreu, le tikkun olam, la réparation de la brisure. L'homme paraît dans un univers qui est un univers brisé. Et l'apôtre Paul déclare, en l'épître aux Romains, chapitre 8, que la création tout entière soupire les douleurs de l'enfantement, parce qu'elle a été soumise à la vanité. Et l'homme paraît dans cet univers brisé. Et le but de Dieu, quand il crée le ciel et la terre, et que les anges, ou peut-être même après, les anges de Dieu, dit le livre de Job, éclatent en chants d'allégresse quand le monde est créé. Parce que ça va vers un but, vers un taf. Le but, c'est la réparation de la brisure, le retour à l'unité. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Et le but de Dieu, dira l'apôtre Paul, c'est de tout réunir dans le Messie, tout rassembler en lui, tout réunifier, ce qui a été brisé au commencement. Aussi bien les choses qui sont sur la terre que les choses qui sont dans le ciel, dira l'apôtre Paul. Tout récapitulé en lui. Et à la fin, quand on arrive au taf de Bereshit, quand on arrive au but, alors, eh bien, Dieu est tout en tous, nous dit l'apôtre Paul. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, eh bien, tout est réunifié. Mais il faut au préalable que tout ce drame extraordinaire eh bien, est eu lieu. Et ce drame, il ne commence pas avec la chute du jardin d'Éden. Le drame, il commence beaucoup plus avant. Il commence dans le ciel, avec la révolte des anges. Et quand Dieu crée l'homme, en quelque sorte, il crée un être qui reçoit, en quelque sorte, la mission d'être celui qui va justement réparer cette brisure. Et si l'homme avait été fidèle à ce qui était la vocation première qui lui avait été adressée, il n'aurait pas chuté. Bien sûr, le cours de l'histoire aurait pris alors un cours tout à fait différent. Et l'homme lui-même aurait pu supplanter Satan. C'était ça le but. Car précisément, nous dit notre texte ici, Satan a été précipité au moment de sa révolte. Je te précipite, chérubin protecteur. Il a été précipité. On le retrouve dans l'Apocalypse. Victor Hugo, dans la légende des siècles, a dépeint ça, vous savez, d'une manière très dramatique, avec son style. La chute de Lucifer, il y a tout un poème remarquable, je ne sais pas si vous le connaissez, sur la chute de Lucifer. Depuis des siècles, il tombait. Il tombe dans un gouffre sans fond. Satan ne cesse de tomber. Alors il a été précipité. Il a été précipité où ? Sur une toute petite planète bleue, perdue dans un petit coin de l'univers. Lui, qui voulait régenter l'univers tout entier, tous les mondes, les anges, etc., toute petite planète de rien du tout, un petit grain de sable, une poussière dans l'univers. Voilà ce qui sera ton domaine, Satan. Quelle chute. Quel châtiment pour ce chérubin rempli d'orgueil. Et là, montre ce que tu sais faire. Vas-y. Tu es le roi de cette terre, vas-y. Tu dis que tu peux faire aussi bien que moi, ben montre. Ça marche pas. Satan ne peut rien créer. Rien. Il n'est pas créateur. Il est destructeur. Et certains pensent que l'expression paraît saïta tau vavo, la terre était informe et vide, c'est le résultat du règne de Satan. Il a complètement gâté la création de Dieu. Alors au bout d'un temps, il dit, maintenant ça suffit. Même sur la terre, moi je reprends les choses en main. Je crée un être qui va contester ton pouvoir sur la terre, Satan, l'homme. Et voyez-vous, Dieu recommence avec l'homme ce qu'il a fait avec les anges au commencement. Sur cette terre, où règne Satan, où Satan est déjà, on voit qu'il est là, avant même que l'homme soit créé, Dieu crée un Éden, qui est la réplique de l'Éden céleste, où il y a toutes sortes d'arbres bons à manger, comme il y avait des arbres dans le ciel, où il y a de l'or, il y a des pierres précieuses, le pays de Havila, où il y a de l'or, les pays, le Pishon, qui va là où il y a des pierres précieuses, etc. On retrouve, parallèle, entre le premier chapitre de la Genèse, chapitre 2 plus exactement, et Ézéchiel 28. Et puis, Dieu met un être dans le jardin d'Éden terrestre pour le garder et pour le travailler, qui est le pendant du chérubin protecteur qui était dans le jardin d'Éden céleste, qui était là pour garder les trésors de Dieu. Et là, travailler, garder ce trésor que Dieu a créé dans le monde, une réserve en quelque sorte sur la terre, l'Éden, le jardin des délices, c'est ça que ça veut dire en hébreu, Éden. Alors évidemment, ça c'est trop, Satan ne peut pas supporter. C'est l'homme, c'est son rival, c'est celui qui est là pour le détrôner, qui va mettre fin à son règne. Et le coup de maître de Satan, c'est d'amener l'homme à prendre son parti à lui contre Dieu, donc à se soumettre à lui. Et l'homme qui aurait dû dominer sur Satan, Voilà qu'il va devenir son esclave. Et quel esclave ? Car il y a une chose que Satan ne peut pas supporter, c'est l'humanité. Il sait que l'humanité est son ennemi mortel. L'humanité a été créée pour le détrôner. Le but de Satan, c'est d'effacer l'humanité de la terre. C'est pour ça qu'il est meurtrier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, le tenter. Tenter l'homme, dès le commencement. Pas laisser l'histoire humaine se développer. Il faut tout de suite tuer dans l'œuf cette tentative de Dieu de reprendre les choses en main par l'intermédiaire de l'homme. Et c'est la tentation dans l'Éden, le serpent qui vient, le serpent ancien, et le drame de l'humanité. Mais Satan avait compté sans les ressources de Dieu. Dieu savait ça dès le commencement, quand il a créé l'homme. Dieu avait réservé de toute éternité l'homme avec un grand H, le fils de l'homme, le second Adam. Et dès le drame de l'Éden, Dieu annonce à l'homme et à Satan, plus exactement, c'est pas à l'homme, c'est à Satan qu'il dit. Tu crois avoir gagné, Satan ? Te réjouis pas trop vite. Oui, l'homme va être soumis à la mort à cause de toi, c'est vrai. Mais de la femme que tu as séduite sortira un jour celui qui t'écrasera la tête. T'en es pas quitte avec l'humanité, Satan. Et tôt ou tard, ce que tu craignais s'accomplira. Et le Fils de l'homme, c'est ça le Fils de l'homme, dont il est question dans Daniel et ensuite dans les évangiles. Celui que Paul appelle dans ses épîtres le second Adam, eh bien c'est celui qui vient à nouveau sur le terrain de Dieu et qui accomplit la vocation humaine. La vocation humaine, c'était de détrôner Satan. Et nous voyons Jésus dans le désert. Trois tentations, comme les trois tentations d'Ève. Ève succombe, Jésus triomphe. Le diable est lié. Je voyais Satan tomber du ciel comme dans un éclair. Et Jésus domine sur Satan. Il chasse les démons, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Le règne de Satan tremble sur ses bases. Il n'est plus le maître. Des hommes dominent sur lui. Non seulement Jésus, mais même ses disciples, après lui. Et alors que la mort s'étend aussi sur le Fils de l'homme, troisième jour, il sort vainqueur du tombeau. La défaite de Satan est totale. Ses victimes lui échappent. Et il y a une brèche dans son système, une brèche qu'il ne peut plus combler. Alors, comme dit l'Apocalypse, il sait qu'il a peu de temps. Et finalement, quel est son seul et unique recours alors qu'il sait qu'il est perdu ? Eh bien, je dirais que c'est la politique de Samson. Samson, quand il avait été vaincu par les Philistins, eh bien, était venu un moment où un peu de sa force était revenue, et il s'était trouvé, vous vous souvenez, dans le temple de Dagon, avec tous les Philistins qui étaient là rassemblés, etc. Et puis, soudain, il a vu une possibilité, qui était de s'appuyer sur les deux colonnes sur lesquelles reposait le temple, et de faire s'écrouler le temple. Bien sûr, pour lui, Samson, c'était la mort. Mais de toute façon, on savait que c'était tôt ou tard le sort qui l'attendait et que les Philistins allaient, même peut-être à la fin de la fête, c'était la coutume, on faisait venir les prisonniers, puis après on les exécutait à la fin de la fête. On savait qu'il était perdu de toute façon, perdu pour perdu. Que je meure avec les Philistins. Et ceux qu'il tua ce jour-là furent plus nombreux, ceux qu'il entraîna dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Eh bien, Satan fait la même chose. Depuis la croix, depuis Pâques, il sait qu'il est perdu. Il sait. Il n'y a rien à faire. Son royaume est en train de lui être repris. Et comme dit Jésus, il a beau faire, qu'il dorme ou qu'il s'agite, rien à faire. Le royaume croîtra Le royaume s'établira sur la terre et Satan sera chassé. Et la volonté du Seigneur s'accomplira un jour sur la terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Et Satan sera chassé. Je sais. Alors quel est son but ? Perdu pour perdu. Entraîner le maximum d'êtres humains avec lui dans sa chute. Dans la mort. Dans la mort éternelle, dans la seconde mort. Les temps de feu et de soufre créés pour le diable et ses anges, mais dans laquelle iront ceux qui se seront identifiés avec l'adversaire, avec Satan. Alors on entraînait le plus grand nombre. Comment ? En les séduisant. Et tout son rôle, justement, c'est la séduction. Continuer cette séduction qu'il avait commencée dès le commencement et qui l'amènera jusqu'à la fin à entraîner toute l'humanité dans une ultime révolte contre Dieu qui sera l'image de sa propre révolte dans le jardin d'Éden au commencement. Et la révolte qui sera conduite par l'Antichrist, c'est-à-dire le chef-d'œuvre de Satan. Satan, un jour, par l'Antichrist, trouvera un homme qui sera prêt à accepter ce que Jésus a refusé. La domination sur les royaumes de la terre. Et nous en sommes presque là. Actuellement, il y a des organisations aux États-Unis qui ont pour but de créer un empire universel et qu'on se bouscule là-bas, croyez-moi, pour être à la tête de ce machin-là. Et vous pouvez être sûr que là-bas, celui qui règne et qui parle, ce n'est pas le Saint-Esprit, hein, c'est Satan. Alors, il offrira tous les royaumes de la terre à cet homme, à condition qu'il se révolte contre Dieu, à condition qu'il entraîne toute l'humanité contre Dieu. Et les sources que j'ai, je ne peux pas publier, sont d'ailleurs été ramassées par le gouvernement israélien. J'ai réussi à savoir avoir ce livre in extremis, je ne savais pas qu'il allait être ramassé. Eh bien, disent que ce qui marque ces organisations-là, c'est le règne de tout ce qui est religieux. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible. Il s'élèvera contre tout ce qu'on appelle Dieu, pour se proclamer lui-même Dieu, vous serez Dieu. C'est l'ultime révolte d'Armageddon, l'ultime révolte de toutes les nations qui se rassemblent contre Israël, parce qu'Israël porte en quelque sorte le témoignage de Dieu, champion de Dieu. Et alors, le Seigneur Jésus anéantira le méchant, l'impie, par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son apparition, de son épiphanie, dit le texte biblique, le texte des Thessaloniciens. Le diable sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Bien. Alors voilà la carrière de l'adversaire. Et alors, toutes les nations qui l'auront séduite, tous ceux qui se seront laissés séduire par Satan, hélas, auront le sort qui est le sien. C'est sa manière à lui de se venger de cette humanité que Dieu a créée pour le détrôner. Qu'au moins, la plus grande partie de cette humanité possible aille dans les flammes éternelles auxquelles lui-même Satan est destiné. Et précisément, l'œuvre de Jésus, c'est de nous permettre d'échapper à ces choses. Et là, voyez-vous, comprendre ces enjeux, c'est très important. Parce que ce n'est pas simplement notre salut personnel qui est en jeu. Bien sûr, ça c'est vrai pour nous, c'est chacun d'entre nous. Sauver sa propre vie, sa propre âme, c'est la chose première. Mais voyez-vous, c'est un combat beaucoup plus loin, qui va beaucoup plus loin que notre seul salut personnel. C'est l'œuvre de Dieu depuis le commencement. C'est l'œuvre, la vocation pour laquelle le Seigneur nous a créés. Et c'est la tentation. Est-ce que nous allons prendre le parti de Dieu, répondre à notre vocation d'homme, et à la fin, les élus reviennent sur la terre, ils règnent sur la terre. Ce qu'ils auraient dû faire au commencement, ce que Satan et ses fils auraient dû faire, dominer sur la terre et assujettir cela, dominer sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes de la terre et les poissons de la mer. Ça sera. Quand la Jérusalem redescend du ciel sur la terre, eh bien, nous régnerons avec lui. Et puis les autres, bien les autres, malheureusement, ben voilà, ceux qui auront pris le parti de l'adversaire, séduits par lui. Et c'est pourquoi le Seigneur donne tant de temps, parce qu'il sait que l'enjeu est tellement grave, Mais il y a un terme à la patience. Et quand nous parlons d'eschatologie, nous parlons justement de la fin de la patience de Dieu. Ce temps est un temps particulier parce que le Seigneur, justement, donne aux hommes cette possibilité à tous les hommes d'échapper à l'emprise de l'adversaire, reprendre leur place dans le combat aux côtés du Seigneur jusqu'à ce que l'adversaire soit éliminé, lui, ses anges et ses légions. Mais bien sûr, le combat est dur et c'est la raison pour laquelle Dieu a fait l'homme en quelque sorte comme un être de combat. La création de l'homme montre qu'il est là pour un combat. Il n'est pas là pour un lieu de repos, comme pensent beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui. C'est un combat. La vie est un combat. Et la vie chrétienne plus encore. Alors justement, Paul dira, moi j'ai combattu le bon combat. Combat contre l'adversaire, avec les armes de Dieu. Et notre vocation d'homme et de chrétien, c'est aussi d'être ces combattants et pouvoir dire, ben, j'ai combattu le bon combat, alors la couronne qui est le signe du règne, hein, nous régnerons avec lui, eh bien la couronne de gloire aussi m'est réservée. Voilà ce que vous pouvez dire ce soir sur l'adversaire.